Audiolib présente Les ténèbres de Mörkret de Camilla Grebe, traduit du suédois par Anna Postel. Lu par Zina Kakulia. À Louise et Jacob. Le récit que vous allez lire est le fruit de mon imagination. Le hameau de Storforsa est fictif, et toute ressemblance des personnages avec des individus réels, vivants ou morts, est fortuite. Les descriptions de certaines procédures policières, judiciaires ou médico-légales ont été adaptées pour des raisons dramaturgiques. Prologue. Les événements réels et les souvenirs qu'elle en avait. Peut-être les uns n'avaient-ils rien à voir avec les autres, comme lorsque deux enfants d'une même fratrie conservent des images diamétralement opposées de leur jeunesse commune. Elle y réfléchirait beaucoup pendant les mois qui suivraient cette nuit-là, ou ce matin-là plus précisément, car il devait être 5 ou 6 heures. L'obscurité était encore profonde devant les fenêtres de la maison. Elle sentait le dos velu de Laïka contre elle dans le calme chaud et humide de la chambre et écoutait le claquement régulier du radiateur au-dessous de la vitre mal isolée. Elle y penserait, passerait en revue le moindre souvenir, ils étaient trop rares, et le retournerait dans son esprit comme les faces d'un Rubik's Cube. Qu'avait-elle vu, entendu, ressenti? La porte s'était ouverte au milieu d'un rêve, lequel était devenu flou, puis s'était progressivement dissipé, se dissolvant tel un comprimé effervescent dans un verre d'eau. Une main s'était posée sur son épaule, exerçant une légère pression. Laïka s'était tortillée en renâclant. Une seconde plus tard, sa queue avait frappé la couverture. Ensuite, elle avait deviné plutôt qu'aperçu le visage d'Ella qui s'approchait du sien dans le noir, son souffle contre sa joue, une odeur de dentifrice mêlée à un parfum fruité. Du jus d'orange. Ella en raffolait. Puis le baiser, si doux contre sa peau. Et les mots « Je reviens vite, ma petite ». C'est ainsi qu'elle se le rappelait. Mais pouvait-elle se fier à sa mémoire? Si oui, pourquoi Ella n'était-elle pas revenue? Pourquoi les jours, les semaines et les mois s'étaient-ils écoulés? Pourquoi le printemps était-il arrivé et avait-il de bon gré laissé la place à l'été lorsque celui-ci avait frappé à la porte? Pourquoi l'obscurité de l'automne avait-elle été autorisée à descendre sur les vastes forêts qui bordaient Storforsa, comme si rien ne s'était passé? Pourquoi les familles se promenaient-elles dans les bois? Cueillaient-elles des champignons? Pourquoi les gens regardaient-ils la télé, mangeaient des chips, jouaient au hockey, chassaient, préparaient des sushis, s'excitaient devant des jeux vidéo, transpiraient à la salle de sport? Pourquoi? 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 Comment la vie pouvait-elle continuer alors qu'Ella n'était plus là? Comment les gens, sa mère, la police, Dieu, pouvaient-ils permettre qu'elle disparaisse ainsi? En réalité, qu'importe ce qui s'était produit en ce matin de novembre, l'ordre dans lequel les choses s'étaient déroulées ou ses souvenirs de ce qu'Ella lui avait murmuré. Il n'y avait qu'un seul mystère apparemment insoluble. Qu'était-il arrivé à Ella? Et où se trouvait-elle à présent? Une année s'était écoulée, une année sans aucune trace d'elle. Une année d'espoir, puis de découragement et de vide. Une année à faire face à des sentiments douloureux, des sentiments aux dents et aux griffes affûtées qui lui grignotaient et lui lacéraient la peau. Dans la maison de Storforsa, la chambre d'Ella était restée telle qu'elle. À l'école, le gardien avait décroché le collage affiché au mur devant la cantine, de grandes photos d'Ella sur lesquelles étaient fixées des peluches miniatures et des mots manuscrits, comme des mouches prises dans une toile d'araignée géante. Les journalistes avaient depuis longtemps déserté le village, les articles sur la disparition devenaient de plus en plus rares. Les habitants évoquaient encore de temps en temps ce fait divers atroce, mais il se passait parfois des jours, voire des semaines, sans qu'on entende le nom d'Ella au bar des sports du centre.